بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, on avait commencé le tafsir de Walil Hidayah-Shah, ça fait pas mal de temps. Donc ce soir, Inch'Allah, on va compléter le tafsir de Walil Hidayah-Shah afin de pouvoir commencer autre chose, Inch'Allah, autre surat la prochaine fois. Mais avant de commencer Walil Hidayah-Shah, le tafsir en lui-même, on le rappelle qu'on nous vivons maintenant. On est dans la première semaine de Dhul-Hijja. On est le 4 Dhul-Hijja, le 3 ou le 4 Dhul-Hijja. Et le musulman se doit d'être conscient des moments qu'Allah Ta'ala accorde à cette communauté. Hein? Vous savez que l'espérance de vie de cette ummah ne dépasse pas 70-80 années. Et pour compenser cette espérance de vie qui est très courte, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a accordé parfois des mois, parfois une décade, parfois des jours, parfois des nuits, qui ont une valeur vraiment importante. Et le musulman intelligent, c'est celui qui sait profiter de ces moments pour se rapprocher au maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que si on fait des efforts toute l'année, on n'aurait jamais, en termes quantitatifs, le nombre de récompenses ne serait jamais égal à ce qu'on va obtenir si on se concentre dans les actes d'adoration pendant ces nuits ou ces journées ou ce mois spécial. On connaît le mois Mubarak de Ramadan, ça il n'y a plus besoin d'expliquer. On connaît la nuit du destin, mais parmi ces moments importants de l'année, il y a les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et malheureusement, on a tendance parfois à oublier un petit peu les vertus de ces 10 Dhul-Hijja. Hein, il y a tellement d'engouement, c'est pas mal non plus, mais il y a tellement ce qu'on appelle le majabœuf, ce que les jeunes disent, hein, l'ambiance qu'il y a autour du qurbani, les animaux, bœuf, cabri, mouton, etc., qu'on est tellement dans le move qu'on finit parfois par oublier le côté spirituel des choses. Bon, on ne va pas revenir sur la sincérité qu'il doit y avoir dans le sacrifice, mais on va plutôt parler du sens profond des 10 premiers jours de l'Hijja, hein, dans un hadith de Jabir, radiallahu anhu, de lequel le Prophète sallam dit « Afdalu ayyam al-dunya ayyam al-ashr » que les meilleurs jours de ce dunya, ce sont les 10. Et les 10, les commentateurs disent que les 10, c'est les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et Ka'b, il a dit que Allah Azza wa Jal a choisi le temps. Et le moment le plus aimé par Allah Ta'ala, ce sont les mois sacrés, Ashhurul Hurum. Et parmi ces mois sacrés, le mois préféré d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est le mois de Dhul-Hijja. Et dans le Dhul-Hijja, les jours préférés par Allah Subhanahu wa Ta'ala, ce sont les 10 premiers jours. Et d'ailleurs, dans Wal Fajri Wal Layalin Ashr, les Mufassirines sont unanimes sur le fait que dans ce surat, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qasam par les 10 Dhul-Hijja. Et on a retenu que lorsqu'Allah ta'ala fait qasam par quelque chose, c'est pour montrer l'importance de cette chose. Également, les fuqaha, les ulama, ils sont d'avis, ça c'est un ra'y. Certains sont d'avis que les 10 jours de Dhul-Hijja sont supérieurs aux 10 nuits de Ramadan. C'est une opinion, hein. On ne va pas dire que c'est vrai à 100%. C'est l'opinion de certains savants. Selon eux, les 10 jours de Dhul-Hijja ont plus de valeur que la dernière décade du mois de Ramadan. Et pourquoi? Ils disent que la dernière décade du mois de Ramadan, elle prend de la valeur par rapport au fait qu'il y a dans ces 10 nuits la nuit du destin. Donc il y a une nuit qui fait que la décade entière a une valeur spécifique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que pour les dix jours de Dhul-Hijja, pardon, hein, chacun de ces jours et ces nuits se valent. Le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au dix, les matinées, le matin comme la nuit, elles ont toutes et tous la même valeur. Donc, la barakat qu'il y a de les 10 Dhul-Hijja, c'est présent de manière permanente, du premier jusqu'au 10. Tandis que dans les 10 derniers jours de Ramadan, il y a une spécificité par rapport au fait qu'il y a une nuit, une soirée, ce sera la nuit du destin, Laylatul Qadr. D'accord? Et donc, lorsqu'on est conscient maintenant de l'importance de ces 10 jours de Dhul-Hijja, ben, on sait qu'Allah Ta'ala attend quelque chose de nous. Nous avons quelque chose à profiter de ces 10 jours de Dhul-Hijja. Si on n'avait pas vraiment pris conscience jusqu'à maintenant, ben, il y a encore du temps. Il y a encore à peu près 5 ou 6 jours pour compléter les 10 Dhul-Hijja. À nous de donner le maximum pour profiter de cette décade. Hein, dans un hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit « Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhi al-ayyam » Il n'y a pas de jour dont les actions sont les plus appréciées par Allah. Tout à l'heure, on disait que ce sont les meilleurs jours du dunya. Et là, il est spécifié les a'mal. Parmi, s'il n'y a pas un jour de l'année, il n'y a pas un groupe de jours de l'année où les actions sont aussi appréciées par Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours de Dhul-Hijja, rawahu al-Bukhari. Et donc, parmi les actions qu'on doit essayer, ce n'est pas obligatoire, mais on doit essayer de faire, essayons dans la mesure du possible de jeûner au maximum. Certes, le fait de jeûner le 9 Dhul-Hijja, le jour d'Arafat, ça, il y a une valeur spécifique. Allah Ta'ala pardonne, Inch'Allah, le Prophète m'a dit que j'ai l'espoir qu'Allah pardonne les péchés de l'année précédente, d'accord? Mais, mis à part le fait de jeûner le 9 Dhul-Hijja, hein, dans certains hadiths, entre autres le hadith de Hafsa, radiallahu anha, elle dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ne délaissait jamais le jeûne de Ashura ainsi que les 10 Dhul-Hijja, d'accord? Et également 3 jours de chaque mois. Et dans une autre version apportée par Abu Daoud, ça c'est par Imam Ahmad, il dit Kana la yada'u siyama tis'a Dhul-Hijja. Le Prophète n'abandonnait jamais, hein, le jeûne des 9 jours de Hijja. Comprenez les 9, parce que le 10 c'est le jour de Bakrid, hein, c'est interdit de jeûner, d'accord? Donc, personne n'a dit que c'est obligatoire, mais sachons que c'est quelque chose de souhaitable. Selon ces 2 sources, le Prophète avait l'habitude de jeûner ces 10 jours de Dhul-Hijja, les 9 parmi les 10 jours de Dhul-Hijja. Parmi les actions également qui sont souhaitables pour profiter réellement de cette décade, le Qiyam al-Layl, le Tahajjud. Hein? Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il voyait que rester éveillé pendant les nuits de Dhul-Hijja, c'était quelque chose de mustahab. Et Saïd ibn Jubayr dit que « La tutfi'u surajakum layal al-ash » C'est une citation de Saïd ibn Jubayr. Il dit que pendant les 10 nuits de Dhul-Hijja, n'éteignez pas les lampes. C'est-à-dire que passez l'essentiel de la nuit dans le ibadat. Et la troisième action que le musulman se doit de faire au maximum, c'est le dhikrullah. Comme Allah Ta'ala dit au Coran, « Wa idhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat » Et Ibn Umar radiallahu anhu rapporte que « Ma min ayyamin » c'est hadith « Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilayhi l'amalu fihinna min hadhi l'ayyamil ashr fa akthiru fihinna min attahlili wa attakbiri wa attahmid » C'est le même hadith que il n'y a pas des jours où les plus appréciés par Allah que les 10 jours de l'Hijja. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le conseil de Ibn Umar? Il dit que faites beaucoup de tahlil, c'est-à-dire lisez beaucoup la ilaha illallah, takbir, dites beaucoup Allahu Akbar, et tahmid, dites au maximum de fois Subhanallah, Subhanallah. Donc, dhikrullah, tahajjud et les jeunes nafil, de cette manière, inshallah, on profitera pleinement de cette première décade de l'Hijja. Donc ça c'était un petit rappel, il est nécessaire de le faire et à nous de le transmettre également à nos mères et à nos sœurs qui sont à la maison. Donc maintenant, pour revenir au tafsir, hein, on était arrivé à la dernière fois, on avait expliqué, je crois, « Wa inna lana lal-akhirata wal-oula »« Inna alina lal-huda » bien sûr, « Wa inna lana lal-akhirata wal-oula » dont on rappelle, hein, la traduction. C'est à nous, certes, de guider. On avait expliqué que la hidayah est dans les mains d'Allah et qu'en même temps, Allah Ta'ala a envoyé les asbab hidayah. Allah Ta'ala a envoyé les intermédiaires pour obtenir la guidée. Le fait qu'Allah ait envoyé des prophètes dans tous les pays, dans toutes les régions, à toutes les époques et dans cette communauté, la propagation de la religion repose donc sur chaque ummati, sur chaque personne de la communauté. D'accord? Certes, donc non, c'est à nous certes de guider. À nous appartient certes la vie dernière et la vie présente. Et on a vu également que la personne qui se concentre sur la vie de Akhirat, rechercher le contentement d'Allah, il l'aura certainement. Et en plus de l'avoir, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, l'accordera ce qu'il veut dans ce dunya. Allah Ta'ala subviendra à ses besoins. Allah Ta'ala lui donnera ce qu'il a besoin pour vivre correctement de ce dunya. Alors que lorsqu'une personne se concentre uniquement sur ce dunya, il est possible qu'il l'obtienne, il est possible qu'il ne l'obtienne pas. Comme on a dit dans le Coran, « Man kana yuridu l'ajila, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. » Que, en ce sens, hein, celui qui recherche donc le dunya, celui qui toute sa vie il veut obtenir les biens de ce monde, l'honneur, le succès donc dans cette vie. Alors, « Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. » Alors, Allah Ta'ala, il le donne, mais la quantité qu'il veut et à qui il veut. Et c'est comme ça le dunya. Même si vous faites des efforts, vous vous levez à 4h du matin, vous commencez à travailler, jusqu'à 20h, vous ne rentrez pas chez vous à midi, vous ne voyez pas madame. Lorsque vous rentrez, vos enfants dorment déjà. Lorsque vous partez au travail, ils sont encore couchés. D'accord ? Faites des sacrifices. Passez du temps. Les week-ends, parfois, vous faites des petits boulots à côté. Et votre but, c'est quoi ? C'est de gagner beaucoup d'argent pour avoir une vie correcte et donner tout ce que vos enfants ont besoin en termes de confort pour qu'ils n'aient rien à envier aux autres enfants. D'accord ? Donc, la personne qui va faire autant d'efforts, il est possible qu'elle obtienne correctement, qu'elle gagne bien sa vie. Mais il est possible aussi qu'avec tous ses efforts, elle ne gagne pas grand-chose. Tandis que paradoxalement, il y a des gens qui travaillent 2 heures par jour, 3 heures par jour, quelques clics sur Internet, quelques dossiers arrangés, quelques petites transactions, et alhamdoulilah, ils s'en sortent avec 3, 4, 5, 6 000 euros, et plus d'affinités par mois. Et l'autre qui travaille, je ne dis pas 35 heures, il travaille 45 ou 50 heures par semaine, hein, il va avoir juste le SMIC, juste 1 000 euros, 1 200 euros, juste de quoi subvenir à ses besoins primaires, le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz, les courses, et basta. Il ne reste plus rien dans la tirelire à la fin du mois. Donc le dunya, il n'y a pas de justice apparente. Je dis bien justice apparente. Parce que tout est coordonné par Allah. Allah Ta'ala a décidé que lui, il vivra riche et lui, il vivra pauvre. Et c'est la décision d'Allah. Et on connaît dans un hadith qu'on avait déjà cité que pour certaines personnes, Allah Ta'ala a décidé de le faire riche. Parce que si elle était pauvre, cette personne aurait fait tel péché. La pauvre, elle ne peut pas vivre pauvre, cette personne. Et pour d'autres personnes, Allah Ta'ala a décidé que cette personne doit être pauvre. Car si elle était riche, si elle avait les biens de ce monde, cela l'aurait entraîné dans telle erreur. Ça, c'est la décision d'Allah en fonction de chacun d'entre nous. Et même si depuis Adam al-Islam jusqu'au Qiyamah, il y aura 2000 milliards d'êtres humains, Allah Ta'ala connaît le dossier des 2000 milliards de personnes. Et Allah Ta'ala a écrit le Taqsim al-Rizq, la distribution de la subsistance pour ces 2000 milliards de personnes. Et Allah, il sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs de ces gens et qu'est-ce qu'ils doivent gagner et qu'est-ce qu'ils ne doivent surtout pas gagner. Ça, c'est le ilm d'Allah, le pouvoir d'Allah et la décision d'Allah. Donc, dans le dunya, ce n'est pas travailler plus pour gagner plus. Ce n'est pas toujours comme ça. Ni travailler moins, vous allez gagner moins. Pas toujours comme ça. Hein? Il n'y a pas une réelle balance entre vos efforts et ce que vous allez gagner. Par contre, la fin du verset, il parle de celui qui donne tout pour Allah. Il recherche le contentement d'Allah. Et à la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit ? فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Eux, en ce sens, eux, ils auront ce qu'ils ont fait. Quelqu'un fait une bonne action, assurément, il sera rétribué par Allah. Et elle ne sera pas rétribuée uniquement par son action. L'action sera multipliée. Elle fait le niyat, elle a la récompense de l'action kamil. Elle accomplit l'action, elle a la récompense combien de fois ? 10 fois. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. D'accord ? Et Allah, il peut donner jusqu'à 700, voire plus, selon comment on s'est investi dans cette action, selon les efforts, le mujahada, selon la sincérité, selon la dévotion. Allah, il peut donner plus encore. Ça, c'est pour le dîn. Allah, il donne. Jamais quelqu'un ne sera perdant si elle s'investit pour le akhira. Jamais de la vie. Elle n'aura pas perdu son temps. Bien au contraire, elle aura gagné beaucoup plus qu'elle n'aura donné et beaucoup plus qu'elle n'aura investi. D'accord ? Donc, wa inna lana l'akhirata wal ula. Et puis, il y a un petit truc à la paille qu'on a dit, qu'on appelle ça. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Bon, c'est plus linguistique, mais j'aimerais quand même vous le dire pour que vous ayez une idée de la perfection des versets du Coran. Lorsqu'Allah Ta'ala dit le Coran, si on retrouve Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Alors, il y avait une formule, il y avait une citation qui était vraiment très intéressante. Rêve. Normalement, le akhirat, le dunya, doit être cité avant le akhirat. Normalement, le dunya doit être cité avant le akhirat, mais dans ce ayat, Allah Ta'ala, voilà. Wa inna lana al-akhirat al-ula. Donc, le cheikh il dit que al-ula mutaqaddima ala al-akhirah fi zaman, d'accord? Donc, wa inna lana al-akhirat wal-ula. Wal-ula c'est le dunya. Allah Ta'ala, de ce verset, il cite le akhirat, ensuite le dunya. Alors que l'ordre chronologique serait été le dunya et le akhirat. Et le commentateur dit qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est par rapport à la valeur. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, il n'y a pas besoin de vous le dire, vous avez déjà compris. Hein, par rapport à la valeur. Allah Ta'ala cite le akhirat en premier par rapport au fait que le akhirat n'est pas comparable en termes de valeur par rapport au dunya. Donc, ce qui a plus de valeur a été cité en premier. Également, le jour du Qiyamah, de le akhirat, c'est là que la puissance d'Allah se manifestera totalement. Nimanil mulkul yawm lillahi wahid al-qahhar. Hein, qu'Allah Ta'ala dira à qui appartient la royauté en ce jour. Ça, c'est uniquement ce jour, c'est pour Allah le plus fort, le plus puissant, etc. D'accord, vous voyez? Tandis que dans ce dunya, certes, c'est Allah qui prend toutes les décisions, mais avec cela, c'est pas le shirk, avec cela, Allah Ta'ala fait le tartib en sorte qu'il y ait des makhlouqat, qu'il y ait des êtres humains qui ont eux aussi mulk, qui eux aussi peuvent commander, mais à un niveau incomparable, bien sûr, avec Allah Ta'ala. Il y a des rois, il y a des présidents, il y a des dirigeants, et parmi ceux-là, il y a des gens justes, il y a des tyrans, etc. Il y a des anarchistes, il y a des putschistes, il y a tout. D'accord? Donc, il y a des gens qui commandent, il y a des gens qui peuvent tuer, qui peuvent protéger, qui peuvent prendre des décisions. Allah décide que le dunya fonctionne de la sorte. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est eux qui décident. Même si Allah les laisse prendre des décisions injustes, mais le revers de la médaille là-haut, c'est terrible. Ce qu'ils vont avoir en termes de riqab, de punition par rapport à leur décision injuste, ça c'est Allah seul qui connaît. Tandis que dans le akhirat, Allah Ta'ala, lui, ce sera Allah seul de diriger. Dans ce dunya, si Allah seul dirige, qu'on comprenne bien, mais Allah laisse à des gens le soin de prendre, de représenter l'autorité, et Allah éprouve ces gens par rapport à leur décision. Ça c'est le imtihan aussi ça. Mais le jour du Qiyamah, personne ne parle plus. Personne ne parle plus sans l'ordre d'Allah. Même les Anbiya alayhi salatu wassalam ne peuvent prononcer une parole sans l'ordre d'Allah. Personne ne peut intercéder pour quelqu'un sans l'ordre d'Allah. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Sans l'ordre d'Allah, shafa'at aussi n'est pas possible. Le prophète sallam n'intercédera pour personne sans l'ordre et l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jour du Qiyamah, l'iman al-mulku al-yawm, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le akhirat est cité avant al-oula, c'est-à-dire avant le dunya. Et puis, là, je voulais venir pour vous montrer la perfection du Coran par rapport à, c'est-à-dire, c'est pas bien de dire les rimes, parce qu'il n'y a pas de rimes dans le Coran, mais la concordance hein, des versets par rapport au son. Voyez, il dit que awakhir al-ayati kulliha akhiruha alif. Il dit que jusqu'à maintenant, tous les versets, c'est ça, tous les ayats se terminaient par des alifs. Inna alayna, on va voir un petit peu plus loin. Wallayli la yarsha, wanahadda tajalla, wal unsa, la shatta, wattaqa, bil husna, lil yusra, wastagna, bil husna, lil usra, taradda. Et là on arrive. Inna alayna lal huda, wa inna lana lal akhirata wal ula. Donc de la même manière, pour avoir ce madda à la fin, le ula est venu après le akhirat. Le oula est venu après l'akhirat pour qu'il y ait une concordance entre toutes les terminaisons du verset. Ça, c'est également la perfection de la concordance dans les consonances dans chaque verset du Coran. 19 minutes, on va faire encore 10 minutes, Inch'Allah. Donc, le verset du jour, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné, c'est-à-dire la personne qui a été condamnée, qui dément et tourne le dos. D'accord? Dans ce verset, Allah Ta'ala, il m'en garde les êtres humains contre ce feu qui brûlera ceux qui n'ont pas eu iman, ceux qui se dévient de l'obéissance d'Allah et des recommandations des Anbiya alayhi salatu wassalam. Donc Allah Ta'ala dit que ce feu est réservé pour ces personnes. Et le feu du Akhirat, le feu de l'au-delà du Jahannam, vous savez, c'est incomparable par rapport au feu de ce dunya. D'accord? Et si vous passez un jour du côté de Saint-Philippe, vous connaissez Saint-Philippe? Si vous passez un jour du côté de Saint-Philippe ou Sainte-Rose, où il y a encore les coulées du volcan, vous allez voir, il y a des pancartes, la coulée 2001, la coulée 2002. Moi-même, c'est la première fois que j'ai vu ça. Et vous regardez, il y a des pancartes que interdit de descendre, interdit de marcher sur les sentiers. Il y a encore de la fumée qui sort. Imaginez d'une coulée de 2001, allez, même 2002. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans. 6 ans, il y a encore de la fumée qui sort. Et si vous marchez, même avec les chaussettes, ça fait fondre votre semelle en caoutchouc et vous allez vous brûler. Si vous passez en voiture, vos pneus vont fondre. Un feu qui date de 6 ans. Et il est toujours ardent. Je ne dis pas ardent, il est éteint, mais il est toujours brûlant. Il y a de la fumée qui sort. Maintenant, essayons de comparer ce qui n'est pas possible, mais imaginons maintenant ce feu de Akhirat. Imaginons ce feu du Jahannam que Jibril alayhi salam lui-même a décrit. Une fois le prophète, il voit Jibril, il dit « Ya Jibril, ma li araka mutaghayyirul laun » « Oh Jibril, pourquoi est-ce que ton apparence a changé ?» Vous savez, il voit que Jibril Salam a une apparence un peu spéciale. Il dit « Qala ma ji'tuka hatta amara Allahu bi mafatih an-nar » Fa qala ya Jibril sif li an-nar » Jibril venait de voir le Jahannam, en ce sens, je traduis en ce sens, ce hadith. Et là, le prophète dit « Oh Jibril, décris-moi comment est le feu ?» وَنْعِتْ لِيَ جَهَنَّمْ Décris-moi donc le Jahannam, comment il est. D'accord? Alors, on ne peut pas situer ce hadith, il n'y a pas de sabab nuzul. Hein, certainement, ça doit être avant le mi'raj, wallahu alam. Le prophète n'avait pas encore vu le Jahannam, wallahu alam. Et là, Jibril, il décrit le feu, pour ça, il dit que إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِجَهَنَّمْ فَأُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى بِيَضَّتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ jusqu'à ce qu'il dit حَتَّى اسْوَدَّتْ. Allah Ta'ala a donné au feu, et le feu a été attisé pendant 1000 années. Et jusqu'à ce qu'après 1000 ans, ce feu ait été entretenu, et le feu est devenu blanc. Le feu est devenu blanc. Inimaginable! Des flammes de couleur blanche, on ne peut même pas, c'est inconcevable. Et ensuite, Allah Ta'ala a fait que ce feu soit entretenu, sa chaleur a augmenté encore pendant 1000 ans. Donc, intensifier le feu, hatta ahmarrat, et le feu est devenu rouge. Et ensuite, 1000 ans encore, le feu a été renforcé, hatta swaddat, et le feu est devenu de quelle couleur? Noir. Et donc, Jibril continue, fahiya sauda mudlima, subhanallah, la yudhi'u shararaha, wa la yudfi'u lahibaha. Elle dit que ce feu est noir. Le feu du Jahannam est de couleur noire et il est sombre. Même les flammes, les étincelles ne sont pas illuminées, ne sont pas brillants. Et même ceux qui sortent, comment on appelle ça, lahib, ce qui est projeté du feu de temps en temps, hein, les étincelles aussi, c'est des choses, ils ne sont pas de couleur vive. Tout est obscur dans le Jahannam. Le feu du Jahannam a donc été entretenu pendant combien d'années? 3000 ans. Et à ce moment-là, à l'époque, il était toujours à ce degré, il était de couleur noire. Et donc, il est, selon certaines versions, 70 fois plus brûlant que le feu de ce dunya. Et regardez que ce feu du volcan, depuis 6 ans, il est éteint. Et là, c'est un feu qui est entretenu tout le temps et il n'est plus de couleur jaune. Il n'est pas de couleur jaune comme notre feu à nous, mais il est de couleur noire, 70 fois plus intense. Et il continue, Jibril dit que je fais qasam, walladhi ba'athaka bilhaq, je fais qasam par celui qui t'a envoyé comme prophète. Si, law anna qadra, taïb, s'il y avait, comment on peut dire ça, qadra saqbi ibra, s'il y avait l'espace d'une ibra, d'une épingle, d'une aiguille, s'il y avait l'espace d'une aiguille qui était ouverte entre le Jahannam et cette terre, c'est-à-dire que si un petit point, une aiguille, un trou minuscule comme le trou nécessaire pour faire passer une aiguille, si ça s'était ouvert entre le ciel et le Jahannam, jusqu'au dunya, futiha min Jahannam, lamata man fil ardi kulluhum jami'a min harrihi. Toutes les personnes, toutes les créatures de ce dunya seraient mortes par la chaleur, à cause de la chaleur du Jahannam. C'est pas que le Jahannam, les portes étaient ouvertes, si l'espace d'une aiguille était ouvert entre le Jahannam et ce dunya, nous serions tous morts par la chaleur du Jahannam. Et il continue, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ خَازِنًا مِنْ خَازَنَةِ جَهَنَّمْ بَرَزَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا فَنَظَرُوا إِلَيْهَا لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ مِنْ قُبْحِ وَجْهِهِ وَمِنْ نَتَنِ رِيحِهِ. Il dit que je fais qasam par celui qui t'a envoyé, ô Muhammad, que si un des gardiens du Jahannam, Khazana, un des gardiens du Jahannam était apparent, si les gens de ce dunya aurait vu, ne serait-ce une seule fois, un des gardiens du Jahannam, فَنَذَرُوا إِلَيْهَا لَمَاتَ, ils seraient tous morts d'effroi, tellement leur visage est horrible, et leur visage fait peur, et tellement l'odeur qui dégage de ces gardiens du Jahannam, c'est une odeur insupportable. Ça fait partie du azab qu'Allah nous protège. Il continue, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لو أن حلقة من حلقة سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لرفضت وما تقرت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى. Dit au Muhammad, je fais qasam par celui qui t'a envoyé comme prophète, que si un des anneaux parmi les chaînes des gens de l'enfer, un maillon parmi tous les maillons qui constituent les chaînes des Ahlinar, des gens de l'enfer, si un de ces maillons était, comme Allah l'a décrit dans le Coran, donc, Wudi'at ala jibali dunya, était posé sur les montagnes de ce monde, tellement ça aurait été lourd que les montagnes seraient écroulées, pas seulement écroulées, enfoncées, jusqu'à arriver au plus profond de la terre, l'ordre de Soufla, jusqu'à atteindre la partie inférieure de la couche terrestre, tellement c'est quelque chose de lourd. Donc à travers les hadiths, c'est pas besoin de 50 hadiths, un seul hadith suffit pour qu'on comprenne c'est quoi le Jahannam. Et ces mots ne peuvent en rien décrire le Jahannam. Donc quand Allah dit le Coran, Ya Yuhannas, Ya Yuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. الله أكبر سبحان الله. Normalement, quand on doit lire ces versets, quand on a vu la description du paradis, on ne peut rester insensible. Si on avait vraiment iman, on serait en train de pleurer en pensant au Jahannam. Quand les sahaba qui ne peuvent pas s'endormir le soir, ils font des cauchemars, ils ont peur du feu de l'enfer. Alors qu'ils sont des sahaba, ils voient le Coran descendre, et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on entend ce genre de description du Jahannam, que même Jibril, première fois qu'il voit ça, et il a été choqué, traumatisé presque, Jibril, alors que c'est l'ange le plus gigantesque, la plus grande créature qui existe, c'est la plus grande créature qu'Allah ait créée, Jibril salam. Il était effrayé par le Jahannam. Et le prophète a vu sur son visage que Jibril avait quelque chose d'anormal. Maintenant qu'on entend ce verset, ô vous qui avez la foi, protégez-vous, ô anfusakum, et protégez vos familles contre ce feu. Waqudha an-nas wal-hijara, ce feu dont le combustible c'est quoi? Les gens et des pierres. Qu'est-ce qui entretient le feu de l'enfer? Des gens comme nous, des êtres humains, des gens, des makhlouqat. C'est eux, c'est pas le charbon, c'est eux les combustibles du feu de l'enfer. Quand Allah il vous dit protégez-vous, d'accord? Quand votre enfant est malade, ou votre enfant n'est pas malade, le médecin dit que à l'âge de 8 ans, il faut faire tel vaccin, à l'âge de 6 ans, c'était ça, à l'âge de 10 ans, il faut faire ça. Est-ce qu'un père serait assez fou pour se dire que, bye, Allah il protège, pas besoin de faire vaccin? Jamais! Si on a loupé un vaccin, on va voir, docteur, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on peut faire deux vaccins en même temps? Est-ce que mon fils va avoir l'hépatite? Est-ce qu'il va avoir la méningocoque? Est-ce qu'il va avoir telle chose? Même pour nous, si il faut faire tétanos, on va le faire, on va faire tout pour ne pas être malade. Si on a un enfant qui est malade dans la nuit, un enfant qui a par exemple de l'asthme, vous savez qu'avec l'asthme on peut mourir en 5 minutes, ou un enfant qui a 41 de fièvre, et que sa fièvre, tellement elle est forte, il peut avoir une méningite, et peut mourir avec cette fièvre, d'accord? Est-ce qu'un père pourrait se dire que Allah donne la maladie, Allah donne la santé, Allah lui a donné la maladie, Allah même lui donnera la santé? Voilà, on va prendre cet enfant, on va, même si on n'a pas de voiture, on va arrêter quelqu'un d'arrive, s'il vous plaît, mon enfant va mourir, amenez-moi à l'hôpital. N'importe quel père ferait ça. N'importe quel père. Il n'y a pas besoin d'être un papa modèle pour faire ça. N'importe qui ferait ça. Maintenant, lorsqu'Allah Ta'ala vous dit, protégez votre famille. Comment on aime notre épouse? Comment on aime nos enfants? On voudrait que rien ne les arrive. Mais, comment puis-je laisser mes enfants dans le mauvais chemin? Comment un père peut ne pas donner d'éducation religieuse à ses enfants? Comment un homme peut laisser sa femme sortir de la rue habillée d'une manière contraire à ce qu'Allah a demandé? Laisser, donner l'habitude à ses enfants de s'habiller comme tout le monde, comme les gens qui n'ont pas iman et qui ne croient pas en ce jahannam. Et que si cet enfant, même s'il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, si vous l'habituez à mettre la petite fille à mettre des jupes, à mettre des tenues, collants, etc., quand elle va grandir, ce sera difficile de changer. Vous êtes en train d'éduquer votre enfant, vous êtes en train de le montrer, oh ma fille, oh mon fils, voilà le chemin de l'enfer. Peu à peu, il faudra t'y habituer, parce que tu y iras un jour. Et c'est nous qui aurons précipité nos enfants de le Jahannam. Et on n'aura pas oublié ce qu'Allah Ta'ala a dit. Là, je parle des vêtements, mais on parlerait de tout, de la salat, de adab, de tout ce qu'un père doit faire pour son fils et pour sa fille. Voyez? Et cette épouse et ses enfants, si on n'a pas respecté le dépôt qu'Allah a mis sur nos épaules, le amana, qu'Abraham dit, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati, vous êtes tous des bergers, et chaque berger est responsable de son troupeau. Si nous n'avons pas pris la responsabilité, nous avons laissé notre troupeau aller où ils veulent, parce qu'ils sont libres, ils sont en âge de découvrir, nous vivons une époque différente, etc. Mais il y a une raison qu'on va trouver, ou que les autres vont dire, que oui, tu es trop sévère avec tes enfants, on n'est plus il y a 10 siècles, 15 siècles, il faut les laisser s'émanciper. Ton fils a le droit de sortir le samedi soir. Si ta fille a un petit copain, elle a le droit de l'avoir. Tout le monde s'est généralisé maintenant. On n'est plus au Moyen-Âge. Une fille sort avec un garçon, ça c'est normal. Si elle veut manger une glace avec son copain, il a le droit tant qu'ils ne vont pas faire l'adultère. C'est pas grave, il ne faut pas être arriéré. On va écouter ça. Mais on est en train de lui donner son ticket pour le Jahannam direct. Et cette même femme, et cette même fille, ou ce même fils, qu'on croyait bien faire en les couvrant, en leur donnant le maximum de liberté, qu'est-ce qu'ils vont dire auprès d'Allah, jour de Qiyamah, Rabbana, en ce sens, ce n'est pas le même verset, mais ça rejoint, Inna ta'na sa'adatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Que les gens qui auront suivi le supérieur diront, Allah, en ce sens, nous on a suivi nos supérieurs, ils nous ont détournés du droit chemin. C'est-à-dire que les enfants, ils sont ma'soum, ils sont innocents. Ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mal. Ils ont l'influence. Le système est fait de tel que tout pousse vers le mauvais chemin. Il n'y a rien dans le dunya qui va amener votre enfant vers le droit chemin. Ce n'est pas le Téléthon, ni la Croix-Rouge, ni quelques associations qui vont inculquer à nos enfants les valeurs de l'islam. Ils vont peut-être les inculquer le souci de l'autre, la générosité, mais les valeurs de l'islam, c'est les parents qui doivent les inculquer aux enfants. Mon fils de 5 ans, de 4 ans, il est en grande section, tous les jours il rentre à la maison avec un nouveau gros mot. C'est pas normal. Et là je me dis qu'il a 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, il est en grande section. Je suis en train de parler avec sa maman ce midi, je dis que quand il aura 12 ans, quand il aura 13 ans, ce sera quoi? Là déjà, je suis en train de regarder c'est qui ses amis. Mais à 4 ans, tu ne peux pas dire ne fréquente pas cet enfant. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Là, ils ont besoin de vivre en groupe. Mais à 5 ans, c'est pas n'importe quoi. À 5 ans, il y a une influence déjà. Quand le prophète il parlait hadith sur l'influence al-jalis al-salih et al-jalis al-su', maintenant 12 ans, 13 ans, 15 ans, Allah seul sait au rythme où vont les fitnas, où va la dépravation chez la jeunesse, où seront nos enfants dans 10 ans, 15 ans. Si à la maison, on ne rectifie pas le tir, c'est fini. On ne peut pas garder nos enfants chez nous. On n'a jamais eu le courage de faire une structure pour que nos enfants aient une éducation laïque, mais en même temps avec des principes fidèles à notre religion. L'enseignement classique, pour pouvoir avoir le brevet, le bac et à l'université faire leurs études, mais en même temps en respectant les principes de notre dîn. On n'a pas eu le courage de le faire. D'accord ? Donc, on ne peut pas garder nos enfants à la maison, les garçons, c'est pas possible. D'accord ? On les envoie à l'école. Il y aura un bourrage de crâne de A et de 2, la fréquentation fera qu'ils vont perdre leur valeur. Mais si nous, à la maison, on ne redresse pas la barre tous les jours, tous les soirs, si on ne fait pas un briefing à 6 heures, tous les soirs, alors votre enfant, clignez les yeux, battez les yeux, comme dit en créole, battez les yeux un mois, vous l'avez perdu. Tout ce que vous l'avez enseigné, les doigts du matin, les doigts du soir, les sourates, si un mois vous n'avez pas fait le rappel, tout ça c'est perdu, il va apprendre les comptines, les chansons, il va apprendre Noël, il va apprendre telle chose, il va apprendre Pâques, joie de l'an, fête des mets, etc., etc. Et nos valeurs islamiques qui ne sont pas incompatibles avec la société où l'on vit. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'incompatible. Mais qu'ils comprennent bien quelles sont nos valeurs à nous. Ça c'est amana. Ça c'est une responsabilité sur le dos de chaque personne. Si vraiment nous aimons nos enfants, si vraiment nous aimons notre épouse, et que nous ne voulons pas voir notre femme un jour brûler dans le feu de l'enfer, et qu'il faut attendre des années, pour que quelqu'un intercède pour elle, et que lorsqu'elle sortira du Jahannam, elle sera toute brûlée, toute noire, cramée, et qu'elle devra rentrer dans le fleuve du paradis pour retrouver son aspect. Si on ne veut pas arriver à ce stade de voir notre fils, même s'il est devenu grand, brûlé de le Jahannam. Alors, retenons ce verset, « Ya ayyuhal ladhina amanu, vous qui avez la foi, protégez-vous et protégez votre famille contre ce feu dont le combustible c'est les gens et les pierres. » Qu'Allah Ta'ala nous protège, wallahi, et qu'Allah nous donne dans notre cœur la réalité de ces choses. Vraiment, ce dunya, « Innama al-hayatu dunya la'ib, wa lahu, wa zina, wa tafakhurum baynakum. » Il y a tout dans ce dunya, amusement, les parures, les choses qui sont belles, les jolies maisons, les belles voitures, hein, les remplacements, tout ça, on a l'impression que ça nous apportera du bonheur. On a l'impression que si j'ai un écran 1m20, si j'ai une Mercedes comme ça, si j'ai une villa avec piscine, je vais être heureux. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire pour essayer d'avoir ces choses-là. Je vais fixer ça comme objectif. Et ce dunya, c'est un cercle vicieux. Mettez-y un doigt, il vous prend deux doigts. Mettez deux doigts, il vous prend la main, le bras, le pied et le corps et votre esprit et vous êtes dans un cercle vicieux. Quand vous entrez dans le dunya, vous n'en sortirez pas. D'accord? Et donc, ce dunya, il nous accapare à un tel point qu'on finit par oublier les deux notions. Le paradis et l'enfer. On ne sait plus qu'il y a des plaisirs qui dépassent ce qu'on connaît, c'est-à-dire le jannat, et on ne sait plus qu'il y a des choses terribles qui sont là pour les personnes qui ont désobéissance, c'est le Jahannam. Également, le hadith du Prophète a dit également que le Prophète a vu un des anges, hein, il dit, Mikaël, le Prophète, si je ne me trompe pas, c'était lors du Miraj, je ne sais pas quoi, le hadith par Imam Ahmed ibn Hanbal dit que le Prophète dit, oh Jibril, Mali, lam ara Mikaël, dahikan qat, dit, oh Jibril, j'ai rencontré Mikaël, alayhi salam, mais jamais Mikaël alayhi salam, qui est un archange donc, m'a présenté un sourire. Il dit que ma dhahika Mikaël mundu khuliqatin nar. Je vais dire que depuis que le Jahannam a été créé, Mikaël ne peut plus sourire. Depuis que Mikaël alayhi salam a vu le Jahannam, ça a provoqué un changement chez lui qu'il ne peut plus sourire. Il ne peut plus sourire depuis qu'il a vu le feu du Jahannam. Wallahi, mes frères, qu'Allah nous donne conscience de ce châtiment, de cet endroit, et qu'Allah nous donne la crainte du feu de l'enfer, et cette crainte engendre l'éloignement total des péchés, et que nous obéissions aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, une fois, Samy raconte à Hadith que l'enfer a parlé et dit, oh Allah, ishtakati nar ila rabbi, il s'est plaigné, dit, oh Allah, akala ba'di ba'dan. Elle dit que tellement l'enfer était chaud, elle dit que je suis en train de me consumer moi-même. L'enfer, il est en attente quand arrivera ce jour où il y aura des gens pour venir dans son antre. Et lorsque les gens seront mis dans le feu de l'enfer, qu'est-ce que l'enfer demandera? Hal min mazid. Est-ce qu'il y a encore? Parce qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour les gens. Qu'Allah ta'ala dit au Coran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Allah nous protège, mais il y a beaucoup de gens qui ont été déjà destinés pour le feu de l'enfer. Et la décision a été prise en fonction de leurs actions. Et qu'Allah fasse que nous ne fassions pas partie de ces gens. Et qu'Allah nous protège. Donc la prochaine fois, on va essayer de compléter. Hein, que Allah il mette vraiment la crainte, sa crainte dans nos cœurs. Et là arrive les fêtes de fin d'année. Mes chers frères, faites bien comprendre à vos enfants que dans l'islam, nous fêtons le Eid, nous fêtons le Bakri. D'accord? C'est un travail qu'on fait à la madrasa avec les enfants, d'accord? Mais malheureusement, c'est quelque chose qui a été inculqué, le sapin de Noël à la maison, les cadeaux pour le jeune Noël. Là, on a la possibilité d'avoir le Bakrid et le Noël à combien de jours? Peut-être 2 semaines d'intervalle, d'accord? Dites à vos enfants que nous, on est musulmans, hein, nous fêtons Bakrid, d'accord? Bien que ce n'est pas la coutume de donner des cadeaux pour Bakrid, on donne plutôt des cadeaux aux bœufs, mais donnez des cadeaux à vos enfants. Dites que tes petits camarades ils vont avoir cadeau pour Noël. Mais toi, tu es musulman, tu ne fêtes pas Noël. Et ton cadeau, Allah, il te le donne avant eux. Donnez un cadeau à vos enfants pour Bakri. Inculquez à vos enfants les valeurs de notre religion. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. Jazakallah.